Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Billy Yvan Lutumba pour la présentation du journal.
La ministre des Mines tape du poing sur la table. La fraude minière doit cesser dans la province du Sud Kivu. L'exploitation des ressources minières ne respecte point les règles et les plus qu'illicites. La population est invitée à s'impliquer pour faire changer la tendance concomitamment avec les mesures du gouvernement. Itendei, hôpital désert à Djougou depuis le week-end. Malades et personnel santé préfèrent sauver leur vie menacée par l'activisme des groupes armés. Ainsi se sont-ils réfugiés dans d'autres zones de la province. Il est responsable du service national à Kanyama KCC. Général-major Kasongo Kabwit est notre invité. Dans ce journal, il démêle les affirmations des violations des droits humains dans le processus de transfert vers son centre des délinquants nommés Kuluna. Restez branchés pour vous informer sur Radio Kapi. Mesdames et messieurs, bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Ce journal s'ouvre par le Sud Kivu. L'exploitation minière est plus illicite que régulière dans la province. C'est le constat dressé par la ministre des Mines après avoir effectué une mission des deux jours à Bukavu, soit du 15 au 16 août. De ce fait, Antoinette Ntsamba Kalambay a sensibilisé la population contre la fraude minière et a dénoncé tous les exploitants miniers illégaux. De son côté, elle promet de prendre toutes les mesures appropriées pour faire respecter la loi et assainir le secteur. Les propos d'Antoinette Ntsamba Kalambay ont été recueillis à Bukavu par Cynthia Bachizi Nabizana.
L'exploitation est plus illicite ici que régulière. Et nous étions venus au fait pour ça. Nous avons ramené le code et le règlement minier pour que l'administration des mines ainsi que ses services spécialisés puissent être regardants par rapport au strict respect de la réglementation minière. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, nous les vivons non seulement dans le Sud Kivu, c'est sur toute l'étendue de la République, il y a des gens, des étrangers qui viennent. Ils s'entendent avec des coopératives minières pour contourner au fait l'exploitation industrielle. Donc quelque part, la population congolaise est responsable parce que pour créer une coopérative minière, on doit être exploitant artisanal. Nous voulons comprendre, il y a des coopératives minières qui ramènent aujourd'hui des étrangers avec des engins lourds. Et nous allons prendre des mesures, en tout cas draconiennes, pour mettre hors état de nuire toutes ces personnes qui sont en train d'exploiter illégalement en nous laissant des trous, des dégâts énormes environnementaux.
Ici à Kinshasa, après presque deux mois de fermeture, les bars, terrasses et autres discothèques ont rouvert leurs portes sur l'ensemble de la ville province de Kinshasa. La levée de cette mesure annoncée le samedi dans le compte-rendu du Conseil des ministres fait par le porte-parole du gouvernement réjouit plusieurs tenanciers des bars et terrasses. Notre équipe de reportage est allée se rendre compte sur terrain de l'ambiance qui règne depuis la reprise des activités dans ce secteur. Michel Outete.
Nous sommes sur le boulevard Kimbuta, l'un des points chauds de Kinshasa situé dans la commune d'Njili. À première vue, les décors éplantés, chaises et tables sont bien rangés. Progressivement, les clients occupent le place. La boisson est servie et les pas des danses s'en suivent sur fond de la musique. Après la fermeture, ces moments sont ceux des retrouvailles des habitués des lieux. Pour les tenanciers de ces espaces, la joie est au rendez-vous. Témoignage.
Vraiment, ça faisait au moins deux ou trois mois depuis qu'on avait fermé les terrasses et bars. Nous avons actuellement repris le travail. En tout, on est satisfait.
Vraiment, satisfaction est allée.
Nous sommes contents comme les activités viennent de reprendre. Aussitôt ouvert, directement on commence à vendre. Déjà donc, vous voyez que le quinoa n'attendait que ça.
Un client trouvé sur place exprime aussi sa joie.
C'est une joie pour moi, client. Maintenant, nos frères tenanciers peuvent souffler parce qu'ils ont beaucoup souffert pendant ces temps.
Même ambiance constatée dans d'autres coins de la capitale, notamment à Bandal, Bon Marché et Place Victoire. Rappelons aussi que le couvre-feu a aussi été allégé compte tenu de l'évolution de la troisième vague de la Covid-19. Il est désormais appliqué entre 23h et 4h du matin.
La Chambre de commerce congolaise Investissement Congo d'abord, en CIVCD, se réclame être l'interlocuteur valable auprès du gouvernement pour répondre à l'idée du président de la République de remettre en place un fonds spécial pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Dans une déclaration à la presse ce lundi à Kinshasa, Claude Malouma, président de cette structure, affirme que l'IVCD est selon lui la seule structure capable de permettre la réappropriation de l'économie congolaise. Il affirme que pour atteindre cet objectif, le fonds des promotions de l'industrie FPI doit également être transformé en banque d'investissement. On écoute Claude Malouma au micro de Alain Irung.
Nous demandons être l'interlocuteur valable et qui représente l'homme et femme d'affaires formels et informels de la majorité silencieuse, qui sont le membre aujourd'hui des IVCD. Mais le gouvernement, le premier ministre, le ministre des Finances, le ministre du Budget, le ministre de l'Économie, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, le ministre des Commerces Extérieurs, de nous contacter au plus vite pour qu'en fait nous puissions mettre ensemble avec l'IVCD et le gouvernement, nous puissions travailler main dans la main si vraiment leur besoin est réel, celui de booster l'économie du Congo, que l'économie soit entre les bonnes mains des Congolais, d'approcher au plus vite l'IVCD pour que nous organisions le cadre dans lequel nous allons présenter directement la population. Pour qu'en fait l'argent ne transite pas entre les mains des mafieux, des conglomérats, des aventuriers comme la fois passée, qui ne représentent que leur personne. Nous nous proposons que le FPI puisse devenir une banque d'investissement, cette banque à taux minimum comme partout dans le monde pour les Congolais, qu'en fait les délais puissent être poussés de 7 mois, 8 mois qu'on voit actuellement à 5 ans, quelqu'un peut emprunter 1000 dollars pour rembourser 10 dollars par mois.
Le délai accordé aux confessions religieuses par le président de l'Assemblée nationale pour désigner le président de la CENI expire ce mardi 17 août. Cependant, ce délai pose problème selon le pasteur Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, puisque la correspondance leur adressée à cet effet leur est parvenue le week-end. Selon lui, les confessions religieuses vont solliciter une autre prorogation pour finaliser cette question qui les préoccupe aussi. Entre-temps, le porte-parole de l'ECC affirme que les négociations se poursuivent. Il ajoute que l'ECC et la CENCO n'ont nullement l'intention de bloquer le processus électoral tel que le soutiennent certaines personnes. On écoute le pasteur Eric Tsenga au micro de Alain Irung.
Il faudrait ici rappeler que la question est cruciale. Elle est éminemment politique. Elle n'est pas simplement de l'ordre juridique. Elle touche à plusieurs aspects, ce qui nous a conduit à avoir plusieurs discussions, plusieurs niveaux de négociations. Les négociations continuent. On ne dort pas. Nous travaillons d'arrache-pied pour trouver vite les solutions. Ce qui fait que les délais matériels nous accordés des 72 heures posent un petit problème parce que la correspondance nous est parvenue le week-end. Vous savez que nous sommes de la semaine anglaise et donc le week-end nous sont vraiment préoccupés et pris par des charges pastorales. C'est ce matin que nous avons été officiellement saisis de la correspondance de l'honorable président. Et donc le président de la plateforme est déjà en train de répondre pour solliciter une prolongation de délai matériel pour essayer de mettre à contribution toutes les discussions que nous avons ça et là. Je pense que c'est tout le pays qui est préoccupé, c'est toute la nation qui est impliquée et les autorités nous accompagnent dans ces réflexions parce que toute la classe politique, la classe sociale veut qu'on trouve la solution et nous comprenons à juste valeur, les préoccupations des uns et des autres. Donc, il est important de se faire encore une fois confiance. Et de notre côté, nous avons nettement la volonté de trouver très vite la solution à ces problèmes.
L'actualité nous amène à Ituri où l'hôpital général de référence d'Itendei dans le territoire des Djougou s'est vidé de ses malades ainsi que de son personnel depuis le week-end. C'est à cause de l'activisme des miliciens du groupe armé qui occupe plusieurs entités dans le secteur de Banyali-Kilo. Certains malades accompagnés de la population se sont dirigés vers le centre des négoces de Kilo. D'autres sont partis à Mongwalu. Selon le président de la communauté Niali, plus de 50 personnes sont prises en otage par ces assaillants. Les autorités sanitaires redoutent que cette situation ne compromette la prise en charge de certains patients qui étaient sous surveillance médicale. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
La situation sécuritaire dégénérée dans cette entité depuis l'attaque le vendredi dernier du village de Licéi par des éléments de la milice Codeco. Ces derniers ont pillé plusieurs biens de la population avant de prendre en otage une cinquantaine de personnes dont on ne connaît pas le sort, déclare le président de la communauté Niali. Et du coup, les habitants des localités environnantes, dont Itendei où se trouve cet hôpital, ont pris le lâche pour suivre Vital Tungulo. Dans la foulée, cette formation médicale d'une capacité d'accueil de 65 lits s'est vidée de ses malades et de son personnel médical. Une situation que déplore le docteur Justin Lodia, médecin des zones de santé de Kilo, qui ajoute que parmi ses patients, il y a des tuberculeux qui étaient sous une surveillance médicale. Ces personnes ont pris la direction de Kilo et de Mongwalu où il y a une forte présence des militaires des FADC. D'autres sont retranchés dans la forêt pour se mettre à l'abri. Ces autorités plaident pour la sécurisation de cet hôpital qui dessert plus de 60 000 habitants. Sinon, s'inquiète son médecin directeur, ce bijou pour la région risque d'être saccagé par ces miliciens, à l'instar de plusieurs autres structures médicales dans la zone. Bounia, Jean-Claude Lekidile, Radio Kapi.
À Boutembo, les activités commerciales ont été à moitié paralysées cet avant-midi. À l'origine, l'appel à deux journées sans activité lancé par la Lucha ce week-end pour décrier l'insécurité dans la région malgré l'instauration de l'état de siège. Aux environs des midi, la vie a repris son rythme normal. Le récit de Sadiki Aboubakar.
C'est lundi matin, la circulation était normale dans la ville de Boutembo. Des regroupements de personnes étaient remarqués sur les grandes artères de la ville comme à l'accoutumée. Cependant, seuls quelques commerces étaient ouverts. Le même décor a été constaté au niveau du marché central, où de nombreux étalages étaient encore vides dans la matinée. Mais au fil de la journée, la vie a repris son rythme normal. Vers midi, la plupart des commerçants qui hésitaient encore ont ouvert leurs portes. Le maire de la ville, Mouaba Ekiteli Roger, a fait le tour du centre commercial pour rassurer les opérateurs économiques en leur demandant d'ouvrir leurs portes. Le commissaire supérieur, Paul Ngoma, commandant intermédiaire de la PNC dans la ville, appelle la population à vaquer normalement ses activités. Il met ainsi en garde tout celui qui osera troubler l'ordre public, car, ajoute-t-il, les manifestations publiques sont interdites sous le régime de l'état de siège. Boutembo, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Au Maniema, la peste des petits ruminants est déclarée dans les territoires de Kailo et Pangui. C'est après les résultats d'examens biologie moléculaire du laboratoire vétérinaire central de Kinshasa du 5 août dernier. Selon le ministre provincial de l'Agriculture, Perche et Élevage, quelques mesures sont prises par le gouvernement provincial pour ainsi contrer la dissémination de cette maladie qui ravage les animaux. Apolline Vumbi-Sikujua revient sur ces mesures dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
La peste des petits ruminants est déclarée dans certains territoires de la province du Maniema. À cet effet, les mesures prises pour contrer la dissémination et la propagation de la maladie jusqu'à nouvel ordre sont les suivantes. Interdiction des entrées et sorties pour tout motif de caprins et ovins dans les zones infectées, groupement Kiamba en territoire de Kailo, en aval du fleuve et ses environs, l'axe routier Kindu, Kasongo, du P49 au P430 et ses environs, et l'axe Kayuyu, Kampene, à 14 km de Kayuyu et ses environs, entourant les zones d'infection dans un rayon de 10 km. Interdiction de la circulation pour vente de la viande provenant d'animaux morts de la maladie dans et en dehors des zones infectées et ou suspectées, zones situées autour des zones infectées. Interdiction de la vente d'animaux malades de dites zones.
Avant de passer à la page internationale, sachez qu'au Kassai oriental, l'eau potable n'est plus une denrée rare en Boujimaï. Depuis bientôt un mois, elle coule au robinet de certains quartiers dans lesquels le réseau de distribution de la régie des eaux n'a pas été saboté. Ce qui était impossible devient possible grâce à la présence en Boujimaï d'une délégation présidentielle qui a mis autour d'une table tous les acteurs impliqués de loin ou de près dans la fourniture en eau potable. Cependant, quelques fuites sont constatées sur les réseaux de distribution de la régie des eaux susceptibles d'entamer la voirie urbaine. La direction provinciale de la régie des eaux lit ses faits à la vétusté de la tuyauterie. Des explications avec Esther Dalafina.
L'eau coule au robinet le matin, le soir et même la nuit au quartier de la Poste, Boubangi, Kansele, Lusengi, dans la commune de la Mouya, au quartier Nkourousse, Masanka, dans la commune de Djoulou, ainsi que dans d'autres quartiers des communes de Dibindi, Kanché, Bipemba, où les réseaux de distribution d'eau de la régie des eaux n'a pas été saboté. Les bidons jaunes des revendeurs d'eau à vélo deviennent de plus en plus rares. Les ménagères saluent ce geste. Thérèse Mouéchi, qui puisait l'eau au robinet du quartier Boubangi, exprime sa satisfaction.
Ces derniers temps, nous avons beaucoup d'eau. On ne souffre plus encore l'électricité. Maintenant, ça va. C'est du matin au soir jusqu'à l'aube même, à vrai dire.
Cependant, sur les avenues Lumumba, Kalonji, par exemple, quelques filles et femmes ménagères recueillent l'eau qui s'écoule des fuites. Symphorien Lukoji, trouvé derrière la poste, craint que les fuites d'eau qui arrosent les avenues à longueur de journée ne créent des têtes de ravin.
Je vois, il y a des flaques d'eau, c'est-à-dire qu'il y en a en abondance. Je ne sais pas si les robinets sont mal entretenus.
La régie des eaux reconnaît que les fuites d'eau constituent un manque à gagner pour l'entreprise. Toutefois, le directeur provincial lie ces fuites au vieillissement du réseau. Claude Mboudilelo affirme que les travaux se poursuivent pour réparer ces défaillances susceptibles d'entamer la voie urbaine. Esther Ndalafina, Mboujimaï, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Depuis le succès de la campagne militaire dans la région de Cabo Delgado au Mozambique, les choses ont bien changé. Les forces armées du Rwanda et du Mozambique ont repris les villes stratégiques aux groupes armés islamistes et les habitants reviennent dans leurs maisons qu'ils avaient quittées. Mais la défiance envers les militaires reste. Certains les accusent des violences envers des musulmans de la région. Dimanche, les officiers des deux pays sont allés à la rencontre d'une centaine d'habitants afin de comprendre leurs préoccupations et de tenter de les rassurer sur leurs intentions. En Zambie, depuis l'annonce des résultats de la présidentielle, ce sont les mêmes scènes dans les rues de la capitale. Les partisans d'Hakainde Hichilema, qui célèbrent la victoire de leur candidat, après 6 tentatives, l'éternel opposant accède enfin à la fonction suprême. Pour le plus grand bonheur de ses supporters. Dieu merci, le président élu Hakainde Hichilema a libéré la Zambie. C'est comme si nous avons à nouveau obtenu l'indépendance, s'est exprimé un habitant.
L'invité.
Général-major Kasongo Kabuite, commandant de service national, est notre invité. Il affirme qu'il n'y a jamais eu des violations des droits humains lors de la 6e vague du transfert des jeunes délinquants connus sous le nom des Kuluna vers Kanyamakassese, comme le prétendent certaines personnalités politiques. Il annonce la 7e vague d'évacuation pour demain encore par la police dans le cadre de l'action gouvernementale. Général-major Kasongo Kabuite s'entretient avec J.R. Longembo.
Général Kasongo Kabuite, bonjour.
Bonjour JR.
La 6e vague du transfert des délinquants connus sous les noms des Kuluna au centre Kanyamakassese continue à défrayer la chronique. Les voix s'élèvent et crient à la violation des droits de l'homme. Quelle est votre réaction?
JR, je suis surpris parce que je sais que les opérations de transfert des Kuluna vers le service national et principalement vers Kanyamakassese n'ont pas commencé cette année. Nous avons lancé ces opérations sous l'instruction du commandant suprême, le président de la République, depuis l'an dernier. Je me pose la question pourquoi ça n'a pas défrayé la chronique dans le mauvais sens l'année passée que maintenant avec la 6e vague. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui estiment que ça ne devrait pas se faire de cette manière ou qu'on devrait carrément arrêter avec les opérations. Les transformats des Kuluna, pour quelles raisons, je suis encore en train de chercher de comprendre et je n'y arrive pas.
Le ministre des Droits Humains déplore le fait que on laisse ces jeunes délinquants torse nu, ligotés, comme s'ils étaient des prisonniers.
Non, moi je crois qu'il faudrait qu'il replace cela dans le contexte. Lorsque la police nationale va à la recherche de ces gens, parfois la police ne va même pas à la recherche de ces gens, ce sont ces bandits qui sont arrêtés en flagrance. D'autres, lorsqu'on va les chercher, vous savez que c'est des gens, ce ne sont pas des garçons de cœur, ce sont des gens qui sont violents, potentiellement dangereux, qui s'attaquent aux paisibles citoyens, qui s'attaquent même à la police nationale. Et lorsqu'on va les chercher, il faudrait qu'on prenne des dispositions pour qu'ils ne se retournent pas contre vous. Vous avez vu, dans la ville, ils se sont attaqués à la police, ils ont tué des policiers, ils ont tué des militaires. Donc, ils n'ont peur de personne. On le débarrasse de tout ce qui peut être servi pour se faire du mal. Ils sont habillés décemment. On n'en parle pas. Ils vont aller à Kanyamakassese. Pourquoi on veut toujours relever cet aspect négatif?
Est-ce que vous aviez, en général, le sentiment d'être soutenu et accompagné par le gouvernement congolais? Si ce n'est pas un secret, à quel niveau se situe l'appui du gouvernement dans ces opérations?
Sans le gouvernement, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait à ce jour. Ou avec le moyen d'un privé.
Donc c'est une action gouvernementale.
C'est une action gouvernementale. Moi, je suis un officier général. Je ne reçois pas les instructions, je ne prends pas des initiatives moi-même. Je reçois les ordres, je reçois les instructions que je dois exécuter.
Vous aviez annoncé la 7e vague d'évacuation pour bientôt. Est-ce que vous les confirmez?
Oui, nous confirmons que la vague, nous allons la faire. Mardi, ils vont être présentés devant l'autorité de la province. Et le mercredi, un autre avion va les amener, va les acheminer à Kanyamakassese. Qu'on nous reproche que parce qu'on le présente torse nu. Mais on ne dit pas qu'on nous félicite parce que le travail qui est en train d'être fait à Kanyamakassese, c'est bon. Vous voyez un peu?
Quel est le bilan de 5 premières vagues?
Je te l'avais dit, nous avons été agréablement surpris. Nous pensions que pour que ces jeunes gens soient transformés, il nous fallait 2 ans. Mais nous sommes en train de voir que cela ne peut nous prendre que peut-être 1 année et 3 mois. Les 2 premières vagues qui constituent le premier bataillon, qui sont partis de Kinshasa l'année dernière. Nous allons clôturer la formation paramilitaire et encadrement civique d'ici 2 semaines, 3 semaines, et passer à la professionnalisation. Donc, C'est pour vous dire que les choses se passent très bien. Donc nous avons résolu un problème de sécurité dans la ville de Kinshasa. Nous avons résolu un problème de chômage. Nous avons aussi résolu un problème de production d'insuffisance alimentaire. Donc, à la fois, nous avons réglé plusieurs problèmes. Et qu'il y ait des gens aujourd'hui qui sont contre ces opérations. Mon Dieu, je me demande. Ceux qui sont morts. Et voilà qui est encore de mécontents aujourd'hui. Finalement, on veut quoi? Une chose est son contraire à la fois. Avant que quelqu'un se lève pour défendre les droits de ces colonnes, il aurait fallu qu'il se lève avant pour défendre les droits des communs, des mortels, des citoyens, des paisibles, des citoyens qui sont agressés innocemment, qui sont tués innocemment. On ne le défend pas. On veut défendre seulement que les droits des colonnes. Mais finalement, c'est quoi ça? C'est injuste ça.
Général Kasongo Kabuit, merci de nous avoir accordé cette interview.
Je vous remercie, JR.
Fidèles auditeurs, nous vous disons aussi merci d'avoir suivi ce journal préparé par Pelikipe Lamondo et l'ensemble de toute la rédaction. Prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 19h, heure de Kinshasa.